Aujourd'hui à l'émission, on parle de la COP15 qui a lieu en ce moment à Montréal.
Le Monde aujourd'hui, avec Julien Corona.
Bonjour à tous, un nouveau numéro de Monde d'aujourd'hui. Je reçois Valériane Toul, qu'on avait pu recevoir l'année dernière à l'émission. Elle est chargée de cours, étudiante au doctorat et coordonnatrice de la maîtrise en droit international et politique internationale appliquée de l'Université de Sherbrooke. Avec elle, on va discuter de la COP15. Notre avant-dernière émission, avant la pause des fêtes, s'est consacrée à la COP15 qui a lieu en ce moment à Montréal. Une COP15 qui, comme vous le savez, prend beaucoup d'espace et beaucoup de temps. C'est quand même un des gros événements de la fin d'année au Canada et dans le monde. Et pour discuter de ça, je reçois une ancienne collègue, ou plutôt une ancienne consoeur pour venir du domaine. On l'avait déjà reçue à l'émission l'année dernière, c'est Valériane Toul. Bonjour Valériane.
Bonjour Julien.
Je rappelle que tu es étudiante au doctorat, que tu es coordinatrice pour la maîtrise d'IPIA, droit international et politique internationale appliquée de l'Université de Sherbrooke, et tu es aussi chargée de cours en droit international. Et on va discuter avec toi de cette COP15, de cette Conference of Parties, de ces conférences des parties numéro 15 de la Convention sur la biodiversité qui a lieu à Montréal cette année. Elle devait avoir lieu en Chine, mais à cause des restrictions de Covid, elle n'a pas pu avoir lieu dans le pays. On va pouvoir discuter de ça aussi dans le cadre du déroulement de pourquoi ça se déroule de la sorte ainsi à Montréal. Et ma première question pour rentrer dans le vif du sujet, Valériane, c'est quelle est cette conférence et pourquoi est-elle importante?
Alors cette conférence, c'est une conférence qui se réunit normalement tous les deux ans et qui a pour objectif de mettre en œuvre la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Et quand on dit mettre en œuvre, ça veut dire qu'on a adopté la convention, cette convention-là, en 1992. Elle réunit aujourd'hui 196 États. Et en fait, pour mettre en œuvre, il faut que les États se rencontrent pour faire avancer certaines questions et toujours plus dans le temps.
C'est ça. Et c'est un peu c'est le même fonctionnement que la COP27 qu'on a eu le mois dernier au Caire. C'est le même fonctionnement que toutes les COP. C'est vraiment les rencontres entre les différents décideurs, les différents législateurs internationaux pour faire avancer le droit international, pour qu'il évolue en fonction de l'avancement des connaissances et l'avancement de comment il doit évoluer. Et c'est la question importante, générale, c'est pourquoi on en est rendu à un point de se dire que c'est une conférence extrêmement importante, qu'il faut encore plus se préoccuper de la biodiversité actuellement dans le cadre de l'évolution du droit international de l'environnement.
Oui, je trouve qu'on l'a vu beaucoup dans les médias, etc. Hein, il faut savoir que les experts, les biologistes, les écologistes, les économistes, même dans le monde, ont fait des études qui indiquent qu'il y a aujourd'hui 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Mmh. 1 million, c'est énorme. Mmh. Puis parmi ça, juste pour donner quelques chiffres, on considère qu'il y a 33% des récifs coralliens qui sont déjà morts, 25% des mammifères terrestres qui sont menacés d'extinction, 33% des mammifères marins. Donc c'est vraiment très très important qu'on vienne discuter de ces questions-là.
Et surtout, il y a une accélération du rythme. On a pu le voir aussi dans les médias en ce moment, c'est que la crise de l'extinction, telle qu'on l'explique, qui est liée à l'entrée dans un nouvel âge terrestre que vous avez pu entendre, cher auditeur, expliquer comme anthropocène, un âge anthropocentrique, où c'est l'humain qui modifie la nature à loisir du fait de son influence sur la biodiversité. C'est un âge qui fait que, par exemple, il y a la COP10, la dernière grande COP, qui était à Aichi, et je pense qu'on a... c'était l'époque où j'étais encore étudiant, c'était assez drôle, qui avait lieu à Aichi, au Japon. La COP10, il y avait eu des objectifs qui avaient pu être dits, et ces objectifs, normalement, ils se permettent de créer un cycle d'objectifs jusqu'aux prochaines COP. Et ces objectifs n'ont pas du tout été atteints. Au contraire, ils ont totalement été balayés par l'évolution telle qu'elle la voit de la biodiversité de la nature, non?
Oui, alors déjà, il y a un rapport qui concerne les États, qui va être sûrement adopté par les États dans les prochains jours, qui concerne en fait les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs d'Aichi. Et en fait, on le sait déjà, non seulement ils n'ont pas été atteints, mais il y a même certains objectifs qui ont reculé.
Ah oui. Quels étaient ces objectifs ?
Les objectifs d'Aichi, il y en avait 20, si ma mémoire est bonne.
En général, oui.
Ouais, 20 objectifs, mais qui portaient donc sur la conservation de la diversité marine, des forêts, l'accès aux ressources génétiques, etc. Mais c'était des objectifs qui étaient très très généraux et donc très très larges.
Très très large, et sur la biodiversité marine, si je me souviens bien, je sais pas si tu pourras me confirmer sur ça, je me souviens, pour avoir discuté, pour avoir écrit dans le domaine à l'époque, c'était, on avait eu les aires marines, une augmentation de la taille des aires marines protégées, des aires protégées dans les océans et surtout en haute mer, protection des récifs coralliens, du patrimoine et du tout ce qu'on appelle le patrimoine qu'on appelait avant et qu'on a du mal maintenant à appeler le patrimoine commun de l'humanité, et tous ces éléments-là, et ça n'a pas du tout été atteint. Et sur l'aspect marin, on le voit qu'il y a une diminution assez importante de la biodiversité marine, ça touche aussi la biodiversité terrestre, et donc c'est beaucoup d'objectifs qui n'ont pas été atteints par rapport à l'objectif principal de ce qu'on appelle la convention sur la diversité biologique. Et c'est cette convention qui est le sujet important de la COP15, comment la faire évoluer. Pour revenir pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la convention sur la diversité biologique?
Cette convention, en fait, elle a trois objectifs principaux. Le premier, c'est la conservation de la diversité biologique. Mmh. Et le mot diversité, il est très important parce que c'est pas juste la biodiversité, c'est la diversité des éléments biologiques de la nature. Puis on a un deuxième objectif principal qui est l'utilisation durable des composantes de la diversité biologique. Et enfin, le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques.
Ouais. Et donc ça, c'est tous ces éléments-là, et ça, c'est quelque chose qu'on a pu discuter un peu en préparation de notre revue, c'est qu'au niveau du droit international de l'environnement, quand on voit ce genre d'éléments et comment c'est agencé, c'est pas un droit de protection, et dans le cadre de, quand on dit protection, de préservation de la biodiversité, mais ça a l'air, au niveau du langage, un droit qui encadre l'exploitation de cette biodiversité.
Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, à travers le monde, les États sont intéressés à exploiter la biodiversité qui s'y trouve. Mmh. Et en fait, c'est juste un partage entre les États, un partage de leur accès aux ressources biologiques. Quand on dit qu'un des objectifs principaux, c'est l'utilisation durable des composantes, dans durable, il y a aussi la dimension jusqu'à quel seuil on peut utiliser la diversité biologique avant qu'en fait, elle ne soit en péril. Mmh. Donc en fait, c'est vraiment l'utilisation, c'est comment on utilise la biodiversité, dans quelle quantité, dans quelle mesure et qu'est-ce qu'on en fait.
C'est ça. Et donc, à partir de là, quand on voit un peu quels sont les grands objectifs de ce droit qui est un peu au sujet de cette COP15, on voit un peu la différence avec la COP27 qui était vraiment liée au climat. Donc, comment aider nos auditeurs à différencier ces deux différentes conférences qui ont lieu à quelques semaines d'intervalle? Quelle est vraiment la différence? Ou même au niveau de la différence, est-ce que ces deux conférences sont liées?
Oui, alors on entend beaucoup cette question-là. Hein. Il y a beaucoup de confusion sur les deux COP. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la COP27, elle porte. Donc c'est vraiment la conférence des parties, Conference of Parties, reliée à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Mmh. Alors que la COP15, c'est la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Mmh. Alors oui, c'est deux thématiques en matière d'environnement, mais les États parties négocient ce sur quoi ils se sont accordés, c'est-à-dire soit sur COP27 sur la convention sur les changements climatiques, mais là dans la COP15 c'est sur la convention sur la diversité biologique. Puis d'ailleurs rien ne dit que les États qui sont partis à l'un sont partis également à l'autre.
C'est ça, c'est au niveau les États choisissent de quoi ils sont partis, mais néanmoins au niveau de l'importance, quand on sait à quel point tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est écosystème, c'est lié, est-ce que l'absence de grandes avancées à la COP27 rend confiant pour de grandes avancées à la COP15, parce que des politiques sur le climat peuvent aussi donner le ton sur des politiques de la biodiversité, donc sur l'intérêt que les décideurs et que les politiciens ont sur ce genre de sujet.
Ce qu'il faut se dire déjà, c'est que la COP27, donc la COP liée au changement climatique, elle a lieu tous les ans. Donc pour qu'il y ait de l'avancée, il faut qu'il y ait beaucoup d'avancées en l'espace d'un an.
Alors que
la COP15, déjà, elle a lieu tous les deux ans. Mmh. Et à cause de la pandémie, là, ça fait 4 ans, en fait, qu'on attendait donc, le retour de la grande conférence. Donc, on a on peut penser qu'en 4 ans, les conversations, ne serait-ce qu'informelles entre les États, ont pu permettre de faire avancer les négociations.
Et donc là, du fait des 4 ans, on a aussi les mesures, tu parlais de retour en personne. Pourquoi cette COP a lieu à Montréal au lieu d'en Chine? Est-ce que c'est à cause des mesures chinoises liées au zéro Covid, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, des éléments plus politiques qui rentrent en compte aussi?
Non, en fait, il n'y a aucun élément politique en tant que tel. C'est vraiment des questions. En fait, donc, c'est la conférence des partis numéro 15 devait avoir lieu à Kunming en Chine. Donc, on devait être accueillis en Chine pour cette conférence. Et en fait, parce qu'il est quasiment impossible de rentrer en territoire chinois actuellement et donc de participer à une telle conférence, il a été décidé, au regard de l'urgence des négociations, en fait, de ramener ça à Montréal. Et pourquoi à Montréal? C'est parce que c'est le siège du secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Justement.
Donc au moins, il y a tout ce qui est aide technique est déjà présent sur place, ça va faciliter les négociations.
Bah, tout le secrétariat est présent sur place, bien entendu.
Et donc, au niveau facilitation des négociations, on parlait aussi dans préparation de l'entrevue qu'il y a deux moyens de voir un peu la confiance dans ces négociations. C'est d'abord, quels sont les objectifs de cette COP15? Quels seront les objectifs qui seront pris à la fin de la COP15 si les éléments qui auront été mis en avant auront pu être remplis? Et surtout, est-ce qu'on est confiant pour cette conférence? Revenons d'abord sur les grands objectifs de la convention. Quels sont les grands objectifs de cette convention?
Oui, bien sûr. Les grands objectifs de la conférence des parties, là, c'est bon, on parle beaucoup du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Ouais. Alors, ce cadre mondial, en fait, il a pour objectif de faire suite aux objectifs d'Aichi dont on a parlé, qui ont été remplis. Donc, comme vous le remarquerez, c'est pour l'après 2020, donc on a déjà 2 ans de retard. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à réunir les parties à Montréal pour avancer très fortement sur ce cadre mondial. Et donc, ce cadre mondial-là, il a pour but, en fait, de mettre en place un certain nombre d'objectifs avec des cibles. Et c'est vrai que, étant donné qu'on prend en compte les lacunes des objectifs d'Aichi, on essaye d'adopter des objectifs et des cibles qui seraient bien plus précises qu'avant.
Et donc, au niveau des cibles, qu'est-ce qu'on a, par exemple, comme cible? Puisque je sais, on pourra en revenir après, tu es observatrice dans le cadre de la conférence. Quelles sont les cibles, pour l'instant, qui ont été préparées? Parce que souvent, les conférences se réunissent, mais beaucoup de choses sont déjà préparées à l'avance. Donc, probablement qu'on sait déjà beaucoup d'éléments, non?
Oui, on connaît ce qui est en négociation. Donc, on sait qu'il y a des thématiques et des cibles qui sont en négociation. Ouais. Et quand on dit que c'est encore en négociation, ça veut dire qu'il est possible que ça ne soit pas adopté d'ici quelques jours. Hein. Ouais. Donc, parmi ces cibles-là, on a notamment quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les médias, hein, c'est protéger les zones marines et terrestres.
Le cadre global, ce qu'on appelle un peu.
C'est ce qu'on appelle le 30 par 30, donc protéger 30% des territoires marins et 30% des territoires terrestres afin de augmenter la capacité des aires marines protégées, etc. Nous avons, dans le même sens que ce qu'il y avait dans les objectifs d'Aichi, mais un peu plus approfondi, réduire la pollution, prévenir, éradiquer et contrôler des espèces invasives. La planification spatiale, etc. Mais il y a aussi des nouveautés. Et dans les nouveautés, il y a notamment d'intégrer la recherche de ressources et de ressources non financières pour aider les pays à mettre en œuvre les cibles.
Ce qu'on appelle le partage des avantages, si je me souviens bien.
Bien, il y a le partage des avantages, mais il y a également trouver des financements, donc au sens financier.
Financements internationaux.
Exactement, qui viendrait potentiellement du secteur privé, du secteur de la finance, etc., pour aider les États à mettre en œuvre justement ces cadres mondiaux. On a aussi les questions autochtones qui sont extrêmement présentes dans les négociations.
On a pu le voir avec l'ouverture de la conférence avec Justin Trudeau qui s'est fait un peu interrompre dans son discours d'ouverture. C'était assez...
Oui, tout à fait. Ça, c'est un exemple, ça a été médiatisé, mais c'est sûr que, outre ça, les populations autochtones ont été invitées à participer à la COP15. Donc, on voit des personnes de groupes autochtones et de groupes traditionnels qui sont présents à la COP15 pour influencer, communiquer sur leur savoir traditionnel, leurs innovations, leurs pratiques autochtones. Mmh. Et je pense que là, il y a quelque chose d'assez important pour l'évolution des cibles.
Et ce qui était assez intéressant, parce que je me souviens, tu pourras me confirmer, au niveau de tout ce qui était utilisation des savoirs ancestraux, partage des avantages, hausse des financements, c'est des éléments qui sont en négociation, qui sont en discussion, qui existent depuis des années, mais on avait du mal à les mettre à l'avant. Il y avait un recul, ou plutôt les pays occidentaux, les pays riches, ne mettaient pas assez d'entrain pour aller dans cette direction-là. Et on voit, à cause de la diminution des habitats, à cause de la dégradation des habitats qui sont quand même protégés aussi, et l'importance maintenant de protéger encore plus du fait de la diminution accrue de la biodiversité, on voit que cette question de partage d'avantages financiers internationaux et utilisation des savoirs ancestraux autochtones et même leur protection devient nécessaire. Et donc c'est bien que ces objectifs, que ces éléments-là rentrent dans les objectifs de cette conférence.
Oui, c'est très bien. Et puis on a beaucoup entendu parler là pendant la première plénière, donc de négociations, des discours de groupes d'État qui mentionnaient ce point-là et qui mentionnaient que pour eux c'est très important que on intègre les questions de savoir traditionnel et des peuples autochtones et locaux dans les cibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y en a beaucoup qui ont indiqué que ces peuples autochtones et ces communautés locales sont celles qui ont la plus grande part de savoir sur la manière de protéger réellement la biodiversité. Et c'est ça qui est important, c'est que leur savoir traditionnel est tellement bien construit, en fait, qu'eux ont des techniques qui permettent de protéger la biodiversité.
Parce qu'elles vivent en approche un peu écosystémique, comme on dirait, avec cette biodiversité. Les deux vivent de concert, l'un vit de concert avec l'autre, donc à partir de là, elles peuvent aider à comprendre comment mieux vivre en commun avec la biodiversité.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la question de vivre en harmonie avec la nature. Et puis, c'est démontré à travers leur savoir.
Donc, sur l'autre point, donc, tu es observatrice avec l'Université de Sherbrooke pour cette conférence. Donc, on sait qu'on a beaucoup de participants et on a beaucoup d'observateurs. Quel est le rôle d'un observateur et quels sont vos objectifs avec ton équipe sur place dans la conférence? Et qu'est-ce que ça va vous apporter aussi? Parce que tu as aussi une autre stature, c'est chercheuse et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, à la faculté de droit. Qu'est-ce que ça va te servir et qu'est-ce que ça va vous servir dans vos recherches au niveau de l'amélioration du droit international et du droit international de l'environnement?
Je fais partie d'une délégation universitaire. Il faut savoir, c'est que la COP15 a vraiment voulu donner beaucoup de place aux universitaires et aux chercheurs. Donc, il y a des places qui leur sont réservées vraiment dans toutes les salles. C'est assez intéressant parce qu'il y a des chercheurs de toutes les disciplines, hein, biologie, économie, etc., et puis de juristes comme moi. C'est intéressant parce que ça vient nourrir en fait les recherches que nous on peut mener de notre côté à l'université, et notamment en accédant à un forum multilatéral de négociation. Parce que c'est ça, hein, c'est un forum multilatéral de négociation. Les États sont là pour négocier. On va voir les intérêts divergents entre les États qui vont se dessiner au fur et à mesure de l'avancée des négociations. Et ça, c'est sûr que ça va venir nourrir nos recherches.
Et ça va venir nourrir vos recherches. Et aussi, ça va participer. Est-ce que vous échangez un peu avec négociateurs sur place? Au niveau, si vous pouvez leur apporter une expertise pour pouvoir les aider dans leur compréhension des sujets?
Il est vraiment possible de rentrer en contact avec les délégations qui sont toutes présentes autour de nous. En fait, donc on peut même aller les voir. On peut, à leur demande, les conseiller s'ils en ont envie, leur montrer un angle différent potentiellement sur certains arguments ou certains objectifs de négociation. Mais aussi, on peut très bien leur demander ce que eux pensent des négociations et quelles sont leurs positions sur certains sujets.
Quelles sont leurs positions sur certains sujets? On parlait de négociateurs. La grande question, plutôt la dernière grande question principale de cette entrevue, c'est les chances d'aboutir de ces négociations. On a vu beaucoup de discours d'ouverture de la part de, par exemple, de M. Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, qui demande aux négociateurs et donc aux pays membres et aux pays parties à la COP d'arrêter de prendre la nature comme une poubelle. On voit le Canada qui a mis beaucoup d'importance dans cette conférence pour montrer qu'il est nécessaire de changer de paradigme, pour reprendre un peu les mots des dirigeants qui ont pu parler à l'ouverture de la conférence, changer de paradigme par rapport à notre rapport à la nature. Mais est-ce que ces négociations, parce que c'est bien les paroles, mais il y a la politique qui doit suivre, est-ce que ces négociations ont une chance d'aboutir au niveau des objectifs que tu as pu nous expliquer en début d'entrevue ?
Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations vont aboutir. C'est-à-dire qu'on va, à la fin de la COP 15, les États vont adopter des décisions et vont sûrement adopter le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. La grosse question, c'est que va contenir ce cadre mondial ?
C'est ça.
Est-ce qu'il va contenir des objectifs et des cibles qui sont extrêmement précis ? On sait très bien que le 30 par 30, donc de zones protégées en mer et océan et en terre, sur les terres, est un gros enjeu. On n'est pas certain que cet objectif-là passe, par exemple. Donc là, les jours à venir sont décisifs en termes de négociations. Et d'après ce que j'ai pu constater hier, donc première journée de la COP 15, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, les présidents de groupes de travail l'ont mentionné. Il reste beaucoup de travail à faire.
Et on pourra en revenir aussi à l'écrit, si vous souhaitez, cher auditeur, nous lire dans un article qui sera probablement publié en début de semaine dans le journal de Montréal ou dans le 24 heures avec Valérie Anne Toul, qui est toujours avec nous au micro, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, doctorante et aussi coordinatrice de la maîtrise d'IPI pour la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et tous ces éléments-là, ces négociations, ça va être bien intéressant de voir comment ça va continuer dans le week-end. C'est une question de confiance, en fait. C'est une question de est-ce qu'on va au niveau politique, parce qu'on voit, par exemple, certains politiques qui disent qu'en ce moment, c'est difficile avec l'Ukraine qui focalise beaucoup d'attention. C'est difficile d'être ambitieux du fait, oui, on a quand même des intérêts, mais il y a une sonnette d'alarme qui est de plus en plus forte par rapport à la biodiversité. Et comme tu me le disais, c'est bien que certains scientifiques soient confiants sur ça, mais il y a des réalités juridiques et des réalités politiques qui sont importantes à prendre en compte.
Oui, tout à fait. En fait, ne serait-ce que parce qu'il y a des États qui ont des niveaux de développement différents, ça pose un certain nombre de questions sur les intérêts divergents. On a des pays en développement qui ont des intérêts qui leur sont propres, qui sont tout à fait légitimes. Les pays en développement, les petits États insulaires en développement, eux, ont beaucoup manifesté sur ces questions-là de biodiversité parce que ils sont au cœur donc d'écosystèmes de biodiversité qui sont très très riches et donc ils ont des intérêts à défendre en la matière. Mais on a également les pays développés qui auront potentiellement des positions qui vont diverger. Donc il va falloir mettre tous les négociateurs à table pour négocier et prendre le sujet de front en espérant qu'ils adoptent des objectifs et des cibles qui sont à la hauteur de la crise qu'on est en train de vivre.
Et ce qui est assez drôle aussi, on parlait de COP aussi en ce moment, des objectifs de biodiversité, c'est qu'au-delà de la COP 27 et de la COP 15, on avait aussi une autre COP par rapport aux espèces menacées, et c'est important, ça rentre un peu dans ce cadre-là qui avait lieu à Panama City, la COP 19, et donc tous ces éléments de négociation, en fait, quand on voit au niveau de l'importance que ça a, on est dans une année charnière, non ?
Oui, ça donne cette impression-là. Il y a aussi des négociations aux Nations Unies pour un potentiel traité sur la confirmation de la biodiversité en haute mer.
Ouais.
Et donc, on sent qu'en fait, les États sont très pris d'assaut sur ces négociations-là. Et puis, c'est surtout, il faut penser à rester cohérent dans les positions. Ouais. Peu importe quelle est l'équipe, quelle est la délégation qui va aller négocier dans telle COP ou dans telle conférence de parties. Il faut que les positions soient cohérentes.
Ouais.
Donc, on avance par petits pas et on verra bien ce que vont donner les négociations de la COP 15 d'ici 11 jours.
Et ça, on pourra en reparler quand tu le souhaites. Et je te remercie, Valérie Antoul, d'être venue vulgariser un peu tout ça pour nos auditeurs. Je rappelle que tu es étudiante au doctorat, que tu es chargée de cours à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et coordinatrice pour la maîtrise en droit international et politique internationale appliquée. Mon ancienne maîtrise il y a quelques années de la faculté de droit aussi de l'Université de Sherbrooke. Et tu reviens quand tu veux pour nous parler de droit international de l'environnement et de problématiques environnementales. C'était un plaisir de te recevoir.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. C'était l'avant-dernier numéro avant la pause du temps des fêtes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Salut.